Alors, à l'espace libre, tous les soirs jusqu'au samedi 19 décembre, l'affiche, écrite et mise en scène par Philippe Ducrot, est une pièce sur l'occupation de la Palestine, sur ses impacts tant chez les Palestiniens que chez les Israéliens. On y décrit la violence insupportable d'un impossible quotidien. La parole est donnée à ceux qu'on entend rarement, les gens simples qui en subissent les impacts des deux côtés du mur. Alors, nous sommes avec Philippe. Bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Il n'y a pas de quoi.
Alors, pour commencer, sur cette pièce que j'ai eu l'occasion de voir la semaine passée et qui m'a beaucoup touchée, l'affiche semble venir d'un besoin de dire et de crier quelque chose. Elle vient aussi des routes de voyage plutôt que des écoles de théâtre. Alors, comment est-ce que c'est né et surtout, pourquoi?
Je vais commencer par comment. J'ai été invité par un organisme français qui s'appelle Écriture Vagabonde, qui était présidé à l'époque par Monique Blain. J'ai été invité à faire une résidence d'écriture à Alep, en Syrie. Donc, Écriture Vagabonde réunit des auteurs de partout à travers la francophonie et les emmène dans des pays, que ce soit le Mali, le Maroc. Et là, cette fois-ci, ben, ils sont allés au Liban, ils sont allés ailleurs aussi. Et cette fois-ci, on est allé en Syrie. Le but, c'est que les auteurs sont sur place, on voyage, on rencontre les gens, on découvre le pays, on fait de l'immersion. Puis ensuite, on rentre à la maison, on écrit un texte inspiré de quelque chose, inspiré de l'expérience. Moi, quand j'ai su que j'allais là-bas, j'ai immédiatement su que j'allais écrire sur l'occupation de la Palestine. Je suis parti d'avance, je suis allé au Liban. J'ai passé 2 semaines là-bas parce que j'ai une amie, puis aussi parce que je vais aller voir les camps de réfugiés palestiniens, sachant qu'au printemps suivant, j'allais retourner au Moyen-Orient, cette fois-ci pour aller en Israël et en Palestine. On ne peut pas le faire dans le même voyage à cause des histoires de visa et de passeport. Donc, je suis allé une première fois au printemps 2005 dans les territoires occupés, en Palestine. Je suis allé aussi en Israël. Je me suis promené et je m'attendais à parler de ça. Je ne m'attendais pas à être aussi bouleversé que ça. Finalement, quand je suis revenu de là, j'ai eu des problèmes de sommeil, j'ai eu des problèmes de choc. Là, ça m'a extrêmement bouleversé. Donc, c'est là que le pourquoi rentre vraiment. Je voulais parler de la Palestine parce que je trouve que c'est un espèce d'épicentre de tension mondiale et on y retrouve tous les enjeux, toutes les hypocrisies, toutes les manipulations, toute la propagande de l'ordre mondial actuel, la récupération des désespoirs par la religion, les guerres de ressources premières comme l'eau, comme le territoire, comme les frontières, et les écarts aussi entre l'Occident, Israël c'est quand même un pays qui se veut occidental et qui réussit à l'être à bien des égards, et la Palestine qui à quelque part elle à cause de l'occupation entre autres a perdu tout l'occidentalisme qui ont pu avoir au contact avec un pays comme Israël. Et finalement, après avoir été là-bas, après y être retourné à 2 autres reprises, en 2006 et en 2009, le besoin de parler de ça est plus que jamais urgent et important. L'occupation, c'est extraordinairement violent. On en parle dans l'affiche, on le présente. Je pense que c'est un spectacle qui est très intense, l'affiche, mais quand même, je sais, moi, que ça n'arrivera jamais à représenter ce que c'est quand... la deuxième fois que j'étais allé avec Hugo Latulippe, qui animait la table ronde. Hugo et moi, on était là-bas, on se promenait, on visitait les camps de réfugiés, on passait les checkpoints, on se promenait en Cisjordanie, on se promenait aussi en Israël. Puis à un moment, il m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très vrai. Il dit, ça faisait 10 ans. Hugo m'a dit, ça fait 10 ans que je lis là-dessus, que je me renseigne là-dessus. Mais j'avais rien compris. J'avais pas compris à quel point c'est violent, à quel point l'occupation en elle-même est une agression constante. Donc, au travers de l'affiche, j'ai voulu donner les gens à ceux qui vivent cette occupation-là. Oui, autant chez les occupants que chez les occupés. J'ai voulu montrer l'impact. Une chose qui ressort du spectacle, j'espère, c'est que l'impact est présent et est très douloureux chez les Israéliens, mais il n'y a pas du tout l'ampleur que l'impact peut avoir chez les Palestiniens. Donc, on ne parle pas ici d'un équilibre. Je ne veux pas donner la parole de manière équilibrée, donner les deux versants de la médaille. Ce n'est pas l'objectif, c'est de montrer empiriquement. Moi, j'ai fait l'exercice de me dire, on parle de l'impact de l'occupation, qu'est-ce que ça fait chez les gens, qu'est-ce que ça génère, et ça génère extrêmement beaucoup de violence.
Puis justement, la semaine passée, lors de la discussion avec toi puis avec les acteurs et actrices, certains ont mentionné quelque chose que je trouvais important, c'est le fait d'avoir beaucoup appris eux-mêmes, puis compris grâce à tes récits, tes photos, au long du processus pour mettre en scène cette édition de l'affiche. C'est quand même quelque chose d'assez inhabituel de devoir sensibiliser, politiser sur un enjeu les acteurs avant de pouvoir mettre en scène son propre texte. Je me demandais comment ça avait été ce processus-là pour faire embarquer tout le monde dans le projet, puis que ça devienne leur projet aussi.
C'est sûr que, bon, eux, c'est, leur métier, c'est d'être comédien. Comme l'a dit François Bernier, qui joue le personnage d'Itzhak, quand t'es comédien, si t'as à jouer le personnage d'un violeur, t'as pas besoin de violer pour y arriver. T'as pas besoin d'être violé pour jouer une fille qui a été violée. Donc, y a pas besoin, eux, de vivre ça, parce que c'est leur métier, à quelque part, de se mettre dans la peau de réalité qu'ils connaissent ou qu'ils connaissent moins. L'affiche, pourtant, se veut, c'est une œuvre d'art, mais il y a aussi un des objectifs derrière l'œuvre d'art, c'est aussi d'inciter la discussion, la conversation, la réflexion. Avec l'équipe, je voulais aussi travailler de cette manière-là. Je voulais qu'on travaille tout le temps en se posant des questions, en réfléchissant sur l'ensemble aussi de ce qui se passe là-bas. On parle pas de... On peut pas parler de ce qui se passe en ce moment derrière le mur ou ce qui se passe derrière les checkpoints ou ce qui se passe dans les camps. Ou on peut pas parler des martyrs de la même manière qu'on peut parler de ce qui se passe dans la vie intime des gens du plateau, dans notre vie à nous. Les affiches de martyrs, les gens existent. Ils sont là, puis ils ont des familles, puis ils sont morts. Puis c'est une réalité. En ce moment, quand on rentre chez nous après la représentation, moi, quand je vais retourner chez nous après l'entrevue, eux, ils sont encore en train de la vivre, l'occupation. Je trouve qu'il y a un certain respect, puis il y a une certaine pudeur. Puis il faut qu'il y ait un certain travail d'honnêteté et de réflexion pour y arriver. C'est pour ça que je suis allé 3 fois. C'est pour ça que je suis allé 6 fois au Moyen-Orient. Je suis retourné au Liban, je suis retourné en Syrie par après. Puis c'est pour ça aussi que j'ai fait une recherche phénoménale. À partir dans le processus de travail avec les comédiens, on a parlé beaucoup, on s'est échangé des livres, les gens regardaient des films, les gens lisaient des livres. Il y a même des BD, là. Il y a Joe Sacco qui a fait une très, très belle bande dessinée là-dessus sur la Palestine. Donc, on a parlé de tout ça. Puis pour savoir de quoi on parle, quand on fait savoir pour que les acteurs puissent savoir de quoi ils parlent et les concepteurs. Ensuite aussi pour donner de la matière, pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'ils disent quand ils jouent. Finalement, une chose qui est intéressante à savoir, c'est que quand j'approchais des acteurs, je leur disais toujours, je fais un spectacle à Espace Libre, ça va être super trippant. Ils me disaient, ah oui, ça me tente d'embarquer. Je dis, ben attends, lis le texte avant. Lis la pièce, parce que c'est un spectacle qui parle d'un propos qui reste encore... malheureusement et étonnamment extrêmement controversé. On ne peut pas parler de la Palestine de nos jours, de l'occupation de la Palestine, sans se méfier de certaines réactions très, très, très émotives qui peuvent arriver. Donc, je voulais que les gens sachent dans quoi on s'embarquait puis qu'ils faisaient une prise de parole qui pouvait être controversée.
Puis justement, il n'y a pas eu juste la pièce, il y a aussi eu quelques lectures de carnets de voyage que t'as écrit, notamment en lisant certains passages. Dans Les lanceurs de pierre, apparaître aux éditions Lancement, t'as écrit « Mais rien ne peut préparer à ce qu'implique l'occupation. On ne peut pas la lire, on ne peut pas la regarder au cinéma, on ne peut pas l'imaginer. Pourtant, t'as osé la faire vivre au théâtre. Alors, je me demandais comment t'avais réconcilié cette impossibilité et cette nécessité de parler de l'occupation en Palestine. »
Je pense que ça revient un peu à ce que je disais aussi au début. Je pense que c'est important quand même d'en parler. C'est important de le dire le haut et fort et d'écrire des livres, des films, de présenter des photos, de faire des tableaux, d'en parler le plus possible. C'est horrible, l'occupation. Que de nos jours, en 2009, il y a une occupation d'une telle violence, une occupation aussi forte militaire, une machine militaire aussi forte au service d'une occupation d'un peuple, c'est inacceptable. Il faut le dire haut et fort. Ce que je veux dire par là, pourtant, c'est que même l'affiche, et ça revient un peu à ce que je disais, même l'affiche, je crois, peut être extrêmement bouleversant. Ça peut donner un aperçu, une idée. Puis l'art est très, très bon pour ça, parce que l'art va plus loin que juste les faits. Je trouve que le journalisme, lui, peut parler des faits, mais l'art essaie de parler de l'émotion, essaie de parler de l'humain derrière ça. Et donc, peut donner aussi, au travers de la poésie, on peut aller chercher quelque chose de l'essence. Mais ce que eux vivent, eux, ils le vivent depuis 60 ans. Ils le vivent de génération en génération, l'oppression, le fait que les soldats rentrent dans les camps de réfugiés toutes les nuits, dans les camps de réfugiés en Cisjordanie toutes les nuits. Ça, ils le vivent. Ça, moi, pour avoir écrit, pour l'avoir vécu, je sais que même ce que moi j'écris à quelque part n'est qu'un tableau éphémère. Je sais que même mes photos à quelque part, c'est juste, c'est un pixel, c'est un fragment d'une réalité qui est énorme, qui est démesurée. Donc oui, il faut sensibiliser les gens, tout en sachant qu'à quelque part, on réussira jamais à transposer notre vécu à ce qu'eux vivent réellement et à montrer l'ampleur du désespoir, de l'horreur et de la violence de cette occupation-là. Et l'ampleur aussi de la beauté des gens qui y font face et qui réussissent quand même à inspirer.
Une des choses que j'ai trouvées importantes qui transparaissait dans la pièce, c'était le rôle du regard extérieur. Il y a notamment un personnage qui l'incarne. Puis dans la controverse que que peut susciter ou dans le débat public qu'il y a autour de l'occupation de la Palestine auquel tu peux être appelé à intervenir du fait d'avoir fait cette pièce. Comment tu perçois ton propre rôle là-dedans?
Moi, je suis un artiste, donc mon objectif n'est pas d'arriver, quand j'arrive dans un camp de réfugiés puis je commence à parler aux gens, c'est pas de récolter des faits, des détails, c'est plus de récolter une ambiance, un état, une réflexion, une émotion qui est derrière tous ces faits-là. Je pense que c'est beaucoup ça mon rôle en tant qu'artiste. Le journaliste, le personnage du journaliste me ressemble, mais lui, c'est un documentariste, donc c'est le documentaire quelque part, et je trouve probablement l'aspect journalistique le plus artistique, qui est le plus proche justement de ce même rapport-là. Mais dans le fait de faire la fiction, c'est sûr qu'il y a une différence entre... Donc, il y a une différence entre ce personnage-là et moi. Mais je trouvais que c'était important d'avoir une porte d'entrée pour pouvoir aussi montrer un peu le regard d'un type qui vit ça et aussi ramener au fait que ces gens-là vivent des destins qu'on pourrait vivre, nous, si on était nés là-bas. Mais nous, on aura toujours l'alternative de s'en aller. Donc, ça m'importait de ça. Une anecdote à ce niveau-là, moi, je me rappelle de me réveiller en plein milieu de la nuit à Ramallah dans un hôtel après en sortant de Naplouse puis en allant vers Jérusalem, puis de me dire quand est-ce que je m'en vais là, d'ici, ça n'a pas de bon sens, là, c'est bien trop intense. Puis de me dire, OK, je pars dans une semaine. Dans une semaine, je vais rentrer chez nous. Là. Après ça, puis de réaliser ce que j'étais en train de me dire, OK, moi, dans une semaine, je rentre chez nous. Eux, ça fait 6 générations qu'ils vivent ça. Puis ils vont le vivre encore pour 6 générations. Et l'agression s'amplifie. Là, en ce moment, la colonisation à Jérusalem-Est, ça s'amplifie. Là. Partout, ça s'amplifie. Donc, ce sentiment-là aussi, je voulais l'exprimer. Ce principe-là de... Eux, ils sont derrière le mur, ils sont bloqués là. Nous, on peut y aller, on peut en parler. Puis c'est une des raisons pourquoi nous, on doit en parler. Parce que nous, on a le privilège aussi d'aller des deux côtés. De pouvoir prendre la parole sans que la vie de nos familles soit en risque. De pouvoir prendre la parole aussi, puis d'aller voir qu'est-ce que ça a l'air dans les colonies. D'aller voir qu'est-ce que ça a l'air dans les synagogues, qu'est-ce que ça a l'air dans les mosquées. De faire un travail, puis de donner la parole à ceux qui finalement ne pourraient pas l'avoir.
Puis ben ça va peut-être aller dans le même sens, mais aussi en lisant des extraits dans tes carnets de voyage sur la rupture du jeûne. À un moment donné, tu parles, tu finis une phrase en disant « Je suis complice, j'ai vu. Mm-hmm. » Puis je me demandais comment tu définis cette complicité-là.
Je trouve que de nos jours, on peut... je trouve que c'est le même depuis tout le temps, mais je trouve que particulièrement de nos jours, avec la surinformation et la surmédiatisation de ce qui se passe à l'extérieur du monde, on peut plus faire semblant qu'on le sait pas. On le sait qu'il y a une occupation. Nos gouvernements le savent. Nos gouvernements font partie d'alliances comme l'ONU. L'ONU le sait. L'ONU a peut-être pas les moyens d'appliquer toutes les résolutions qui ont été bafouées par Israël, mais l'ONU devrait essayer, peut vouloir essayer. Nous, en faisant partie de tous ces mouvements-là, en étant citoyen du Québec, du Canada, de l'ONU, citoyen de l'ONU, donc parce qu'on est des citoyens de l'ONU à quelque part, on a un minimum de responsabilité là-dedans. Je pense que la responsabilité civique ne s'arrête pas qu'au droit de vote. Je pense qu'elle est beaucoup plus grande que ça, la responsabilité civique. En plus, de nos jours, je pense que les Anglais appellent ça la globalisation, nous on appelle ça la mondialisation, ça veut dire quelque chose. Il y a quelque chose de global. La société est devenue globale. C'est pas vrai que mon mode de vie n'influence pas le mode de vie des gens qui vivent dans les dépotoirs de Lomé au Togo. C'est pas vrai, ça influence. Tout ça fait partie de la chose. Acheter, c'est voter, dirait Laure Varidel. Ça va plus loin que ça aussi. La manière qu'on vit, la manière qu'on réfléchit notre vie, la manière qu'on prend parole, la manière qu'on ne prend pas parole, la manière qu'on accepte dans nos sociétés, nous rend responsables aussi de ce qui se passe. Je trouve que l'Occident, en ce moment, puis pas juste l'Occident, mais l'Occident est responsable un peu comme de non-assistance à personne en danger, un peu comme si on voyait quelqu'un sur le bord de l'autoroute, puis qu'on continue notre chemin. Parallèlement à ça, le Canada est dans une position qui est très particulière. D'après moi, on est le pays le plus pro-israélien au monde en ce moment. Lors des bombardements de 2009, il y a eu des résolutions de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a eu, entre autres, une résolution qui disait faut arrêter les bombardements, faut que l'Israël arrête de prendre des civils, arrête de prendre les infrastructures de l'ONU, arrête de prendre les hôpitaux et le personnel et leur infrastructure comme cible. Arrête d'utiliser aussi des bombes au phosphore blanc. Tout ça, ça fait partie d'une résolution de l'ONU. Il y a eu 33 voix pour, une voix contre, 8 abstentions. La voix contre, le Canada. C'est pas les États-Unis, c'est le Canada. Le Canada est le premier pays à avoir coupé l'aide à la Palestine suite à l'élection du Hamas, avant même les États-Unis. Ça, les gens, on le dit pas, on le dit très, très, très peu, mais en ce moment, et ça n'est pas qu'une question idéologique, c'est définitivement une question d'agenda. Il y a des gens qui font de l'argent là-dessus. Il y a des gens qui ont des intérêts. Il y a des lobbies qui font de la pression et des gens ont des intérêts pour que ça dure comme ça. Le Canada, en ce moment, a une position extraordinairement disgracieuse internationalement par rapport à l'occupation de la Palestine. On s'est toujours baqué comme étant un pays neutre, un pays de... Mais c'est pas du tout le cas, là. En ce moment, c'est plus le cas. On défonce des portes en Afghanistan, on rentre dans les maisons, on est une armée agressive. On fait la... Puis par l'absence de gestes et par la compassion, par la complicité qu'on a par rapport à l'occupation en ce moment en Israël, on se retrouve à être complice directement. Moi, si je fais rien, je suis complice. Puis je vais continuer à l'être. Parce que j'ai fait une pièce de théâtre, j'ai fait des expos photos, j'ai écrit des livres, j'ai écrit des lettres dans les journaux, je prends la parole en public. Mais après ça, je rentre chez nous. Donc, j'arrête. Il y a des gens qui meurent à cause de ça. Et à quelque part, tant que mon engagement n'est pas absolument total, je pense que je suis complice.
Puis c'est quand même toute une position en tant qu'artiste. C'est quand même un petit peu... À contre-courant de ce qu'on voit des fois. Comment ça se vit? Est-ce qu'il y a des espaces? Est-ce que c'est un combat quotidien d'affirmer que ce que tu fais, c'est de l'art avant tout?
Le fait que ça soit de l'art avant tout, il y a deux choses. Quand j'écris une lettre dans les journaux, j'écris une lettre lors des bombardements de Gaza en 2009, à la fin 2008, début 2009, parce que j'étais là. Donc, en revenant, c'était extrêmement important pour moi de dire, écoutez, moi, j'arrive de là. Je suis revenu le 13 janvier, c'était en plein bombardement. J'ai dit, faut que ça arrête. J'ai écrit une lettre, elle a été publiée dans Le Devoir. En 2006, il y a eu une lettre, j'ai écrit aussi une lettre qui a été publiée dans la presse suite au bombardement du Liban par Israël. Parce que j'ai des amis là-bas, donc c'est aussi une manière de donner la parole à mes amis là-bas, qui me disent un peu ce qu'ils vivaient. Donc, oui, j'ai un aspect qui est plus activiste. Mais après, d'abord, je suis un artiste, puis quand les gens voient mon travail, je pense que c'est très, 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 très clair. Donc, c'est ça, je pense pas avoir revendiqué mon côté d'artiste dans mon travail. Je pense que c'est extrêmement présent. Les gens n'ont pas l'impression d'aller voir une conférence quand ils vont voir l'affiche, on va voir un spectacle de théâtre. Puis je pense que la théâtralité est très, très, très claire. Dans mon métier, le fait de prendre parole, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont peur de ça. Moi, j'y peux rien, puis je vais continuer à prendre parole. Parallèlement à ça, je pense, en ce moment, il y a un phénomène qui me touche beaucoup, c'est que le spectacle va très bien. Il y a beaucoup de monde. On a même levé une supplémentaire le 19 décembre à 14h30 pour répondre à la demande, puis aussi aller chercher un public qui peut pas y aller le soir. Il y a du monde dans la salle, les salles sont pleines presque tous les soirs. Il y a plein de théâtres en ce moment qui sont vides. C'est une période qui est extrêmement difficile pour vendre du théâtre en ce moment parce que c'est Noël, parce qu'il y a de la neige, parce que les gens sont en train de faire leur magasinage de Noël, parce que les gens économisent aussi pour Noël. L'affiche, ça va très bien. Je pense qu'en ce moment, moi, ce que ça me dit, puis je reçois des messages très forts aussi par email, par téléphone, par le public, par les journaux aussi, de gens qui sont extrêmement touchés. Les gens au Québec ont besoin d'entendre les artistes parler. Quand j'ai commencé ce processus de recherche-là sur l'occupation de la Palestine, je pensais écrire une pièce de théâtre, merci, bonsoir. J'aurais fait deux expositions, j'aurais publié dans après quatre recueils d'artistes, j'aurais écrit trois livres, j'aurais fait une pièce de théâtre qui est jouée en France, qui était jouée en Syrie, qui est jouée ici. Les gens veulent entendre des artistes parler de ça. Ils veulent entendre des artistes parler de ça avec art. Donc, à ce niveau-là, je pense que la société québécoise est en train de changer. La quête identitaire prend peut-être moins de place dans l'inconscient collectif. On a besoin de la continuer, notre quête identitaire au Québec. Mais je pense que les gens aussi commencent à vouloir savoir ce qui se passe à travers le monde. Et les gens ont goût aussi d'un art qui prend parole, puis qui parle, qui dit des choses pour de vrai. C'est ce que j'en pense. C'est ce que j'espère. Puis je suis pas tout seul à le faire, en plus.
Puis, justement, tu as aussi une compagnie, Tel Motel. Puis c'est quoi les prochains projets, autant avec la pièce qu'avec la compagnie?
C'est sûr que ma compagnie, c'est une petite compagnie. Il n'y a comme employé que moi. Alors, je suis directeur général, administratif, je suis concierge et responsable de la photocopieuse. Donc, je fais à peu près tout dans la compagnie. On est au palier gouvernemental de financement. On est ce qu'on appelle au projet. À chaque projet, on dépose de l'argent. C'est sûr qu'initialement, j'aimerais ça grossir le financement parce que c'est un gros show, l'affiche. Faire de la tournée, ça va prendre de l'argent. Donc, c'est sûr que je vais essayer de faire tourner le spectacle. On parle déjà de reprise. On parle peut-être même d'aller l'amener au Moyen-Orient. Peut-être aller au Liban. En ce moment, il y a une invitation directe qui vient d'un théâtre au Liban. On va essayer d'amener le spectacle là-bas de tout cœur. Je vais reprendre aussi un autre show avec ma compagnie, un autre show qui s'appelle L'assassinat d'Andrew Jackson, qui parle des États-Unis, qui parle de ce qui se cache derrière le rêve américain. C'est un western, c'est un spectacle un peu plus léger, mais c'est quand même, au travers le western, on parle quand même de tout ce qui se cache derrière le rêve américain. Je travaille aussi sur une autre exposition, mais qui serait plus interactive, plus théâtrale, qui parlerait d'Afrique. Puis je travaille aussi, je viens d'achever un roman qui s'appelle Eden Motel, et il y a peut-être l'idée de l'adapter au théâtre qui flotte dans l'air. Voilà où est-ce qu'on en est avec Eden Motel.
Je me suis amusée à lire le débat dans le journal Voir.
Oui.
Je t'entraînerai pas nécessairement sur la grosse discussion, parce que je pense que tu l'as déjà couvert. Mais Gilles Sroka, qui dit plein de choses, a dit une chose qui m'a amusée et que j'avais envie de reprendre l'élément tout en sachant que je l'extrais complètement de son contexte. C'était la question de quand on parle de l'occupation du Canada, de l'occupation au Canada, de dire, elle dit en fait si. Si on disait que le peuple canadien occupe la terre des Amérindiens, et elle fait un appel à, j'ai hâte que Philippe Ducrot écrive quelque chose là-dessus. Alors j'avais ça en tête, puisque moi je parle d'occupation au Canada. Alors je me demandais si tu parlais aussi d'occupation ici.
Il y a plein de choses que je peux dire. J'ai vraiment le goût de répondre à cette question-là. Premièrement, j'ai vraiment le goût d'écrire une pièce qui parlerait des Amérindiens. Moi je suis très proche de la communauté Mi'kmaq de Gaspésie-Gog. Près de Maria en Gaspésie, puis c'est des gens que je connais bien, j'ai une très bonne amie, en tout cas, je les côtoie énormément, puis j'ai vraiment le goût de parler de ça. Il y a un phénomène qui se passe entre la Palestine puis les Amérindiens, c'est que je pense que la purification a réussi, malheureusement, ici en Amérique, contrairement à Palestine, n'est pas terminée, on a encore le temps de l'arrêter. Ici, on a gagné, on les a massacrés. C'est fait. Là, ils peuvent y survivre dans des réserves. Puis je pense que malheureusement, c'est vers là que ça s'en va en Palestine. Ils vont survivre dans des réserves, dans des conditions absolument horribles. L'occupation qu'on a ici en ce moment n'est plus une occupation militaire. Là-bas, on parle d'une occupation militaire. Il y a quelque chose dans le mot militaire qui est très, très, très important. C'est extrêmement violent. L'occupation militaire, c'est extrêmement violent. On parle des soldats qui rentrent, qui enlèvent des gens, des assassinats sélectifs, des maisons démolies, tout ça. On vit plus dans cette situation-là en ce moment. Troisièmement, pour revenir à ce que Gilles Sroka disait là-dessus, je crois qu'on peut très, très bien dire au Québec, on vit sur une terre qu'on occupe. Cette terre-là, c'était pas à nous. C'est la terre des Amérindiens. Il y a une espèce de concept du droit acquis sur lequel Israël s'est construit, sur lequel on se construit. C'est que maintenant, où c'est qu'on veut mettre, où on va mettre ces 800 millions d'habitants d'Amérique du Nord, ou d'Amérique, des Amériques, où est-ce qu'on va les mettre? On peut pas les mettre ailleurs. Il y a quelque chose, justement, de cette oppression-là est terminée, elle a gagné. C'en est extrêmement triste, extrêmement violent, c'était le plus grand génocide du monde, mais ça a eu lieu. Je pense pas pourtant que de dire ça, on va venir avec un gun, on va mettre un gun au bord de la tête pour qu'on me chasse du Canada, pour qu'on m'envoie n'importe où. Je pense que non, il y a aucun problème, on peut très 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 bien dire ça. Oui, je pense à écrire une pièce de théâtre sur les Amérindiens, ça fait partie des possibilités, c'est un sujet qui est difficile à approcher, parce que encore une fois, moi je suis allé souvent en Palestine, je veux, pour aller sur les Amérindiens, pour parler des Amérindiens, j'aimerais ça les connaître plus. Donc, j'essaie de travailler là-dessus, et essayer de comprendre plus c'est quoi exactement ce qu'ils vivent, pour donner la parole aux gens aussi derrière, puis pas juste aux chiffres, encore une fois.
Si on veut suivre ton travail, voir ce qui se fait, il y a un site web.
Le site web de Hôtel Motel est en construction, on va dire, il est à l'état de l'idée. Au niveau de la construction, j'ai une page Facebook, là, Hôtel Motel, très facile à aller trouver. Puis, ben oui, initialement, c'est sûr qu'on va médiatiser le plus possible la chose. Là.
Alors, à ne pas rater d'ici samedi 19 décembre l'affiche, avec une supplémentaire en après-midi samedi à l'Espace Libre. Et on espère d'autres reprises bientôt à Montréal et une tournée à travers le monde.
Parfait.
Merci beaucoup.
Merci, Sabine.
C'était une production de Collectif En Profondeur. Nous diffusons tous les lundis à 17h sur les ondes de CKUT 90,3 FM à Montréal.
Thank you.